notre invité, il est là. Je vais me calmer un petit peu. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables. Comment allez-vous?
Très bien vous-même.
Oui, ça va bien, mais je regarde le contribuable 2026, ça va être toute une année pour lui. Je regarde là, il y a du pain sur la planche pour notre contribuable.
Ben oui, du pain sur la planche, c'est effectivement le mot juste, surtout que on ne sait pas exactement si on devrait s'attendre à des allègements fiscaux pour l'année 2026. C'est drôle parce qu'on entre quand même dans une année électorale, puis la dernière fois qu'on est entré dans une élection en 2022, il y avait une surenchère entre les partis politiques pour nous promettre des baisses d'impôts. Je ne sais pas si on peut s'attendre à ça d'ici la fin de l'année, parce que pour l'instant, c'est bien beau de noter là qu'il y a eu des petits ajustements qui ont lieu depuis la mise à jour économique là, du gouvernement Legault, où est-ce qu'on disait notamment qu'on baissait les cotisations au RQAP ou à RRQ, mais à la fin de la journée, il y a quand même là des ajustements qui font en sorte qu'on est un peu perdant, ne serait-ce là, qu'au niveau de la disparition du bouclier fiscal pour un très grand nombre de Québécois. Donc, et c'est sans oublier les augmentations de taxes municipales qui s'en viennent à grands pas. Oui, on n'a pas beaucoup de marge pour les contribuables. Et cerise sur le gâteau, on peut aussi s'attendre à des augmentations assez importantes, ne serait-ce que d'au moins 3% des tarifs d'électricité. Donc, il y a une accumulation d'augmentation du fardeau fiscal auquel il faut malheureusement s'attendre pour 2026 dans un climat économique qui va être relativement au ralenti. Il y avait déjà des rapports qui ont été publiés par, entre autres, le Conference Board qui démontrait que le Québec aurait fort possiblement la pire croissance économique de toutes les provinces là, pour l'année 2026. Déjà qu'on a la pire inflation. Donc, c'est rien nécessairement pour égayer le début de l'année en cours, mais ce qu'on peut espérer, par contre, c'est qu'avec les élections qui s'en viennent, peut-être qu'on aura enfin des réajustements, qu'on aura des partis politiques qui sont un peu plus à l'écoute. On sait qu'il y en a quand même quelques-uns, on peut mentionner le Parti conservateur du Québec qui parle de ça. On va espérer que le Parti québécois embarque là-dedans. Puis on se rappelle aussi que la coalition des Québec nous avait promis des baisses d'impôts, mais n'a pas nécessairement tout livré comme c'était promis. Donc, à suivre, mais pour l'instant, malheureusement, l'horizon pour les contribuables québécois n'est pas extrêmement radieux.
Ouais, c'est ça. Puis, si, mettons, on y va avec le Parti québécois, eux, c'est l'indépendance qu'ils veulent. Donc, eux autres, c'est des dépenses supplémentaires, là.
Ben oui, c'est des dépenses supplémentaires à tous les niveaux, parce que c'est bien beau de dire qu'on va récupérer l'argent qu'on n'envoie plus au fédéral, mais on va créer des nouveaux champs de compétences qui ne sont plus provinciales, mais plutôt de nature nationale. Donc, ce qu'on sauve du fédéral va être mis ailleurs. Puis c'est sans oublier le fait que c'est dans l'optique où est-ce que le référendum fonctionne. Moi, c'est un peu ce qui me dérange. Je veux dire, c'est même pas un commentaire par rapport à l'indépendance du Québec, mais plutôt à la notion du fait que, ben, si par exemple l'indépendance fonctionne pas, il faut quand même diriger la province. Donc moi, j'ai hâte que les médias commencent un peu plus à questionner le Parti québécois par rapport à sa plateforme au-delà de l'indépendance, parce que c'est pas une baguette magique l'indépendance. Ça ne règle pas les problèmes dans le système de santé, ça règle pas les problèmes au niveau des infrastructures, ça règle pas les problèmes au niveau de notre poids fiscal sur les contribuables ou les entreprises au Québec qui en arrachent.
Ouais.
Donc, j'ai hâte d'avoir le plan de match de Paul Saint-Pierre-Plamondon. J'ose espérer qu'il y en a un. Je vais être de bonne foi là-dessus. Mais j'ai hâte qu'il soit présenté, parce que ça reste le parti qui, pour l'instant, mène dans les sondages, qu'on imagine être le prochain gouvernement. Et pour l'instant, on a juste le mot référendum, mais on n'a pas le mot gouvernance qui a été très souvent prononcé, mais qui va faire toute une différence au final.
Et c'est la gouvernance qui va faire en sorte qu'on n'aura pas de déficit et qu'on aura un gouvernement moins lourd. Parce que ce que je vois, moi, du Parti québécois, ils veulent garder tout le modèle actuellement, là, et rapatrier les dépenses des Québécois, enfin, tout ce qu'on paye au fédéral. Mais même à ça, il y a eu des études récemment, puis le fédéral investit beaucoup plus que ce qu'on envoie, nous, à Ottawa. Donc, il y aurait encore des gros déficits, même si on gardait toute la structure-là en place.
Oui, c'est effectivement, là, on va espérer que pour l'instant, le fameux ménage que France-Hélène Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, a entamé au niveau de la fonction publique, se concrétise. Il va falloir attendre le budget en mars pour avoir une idée de tout ça, mais encore là, on fait un ménage qui est pas mal en surface. C'est-à-dire qu'on
En année électorale aussi, moi, j'ai jamais vu un gros ménage en année électorale. On a beaucoup, beaucoup parlé, on a beaucoup, beaucoup fait de bruit là du côté de la CAQ, mais ça se traduit pas par un ménage. On va avoir un gros déficit pareil annoncé au mois de mars, là.
Oui, mais c'est sûr que pour l'instant, si en plus l'économie ralentit, ben on peut s'attendre à ce que le gouvernement ait moins de revenus et par extension, ben que ça creuse les déficits. Et oui, c'est bien beau de dire qu'on a coupé 2000 postes cette année, mais 2000 postes, qu'on en a racheté 12 000, puis qu'on a racheté quand même un certain nombre de structures au courant des dernières années, que ce soit mobilité, la nouvelle agence là, pour le ministère des Transports, sinon Santé Québec et autres, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau de la qualité des services ou de leur accessibilité, mais on ajoute plus de fonctionnaires, plus de programmes. plus de contrôle. Donc on réduit de quelques fonctionnaires à droite et à gauche, mais le coût réel de la machine, lui, continue quand même à augmenter de manière assez drastique, sans pour autant que les contribuables voient un retour sur cet argent-là. Et puis, ben c'est ça, on va espérer aussi qu'au-delà de la CAQ qui dit faire ce ménage-là, qu'il y ait des gens qui proposent des mesures ou un peu plus ambitieuses pour réduire les dépenses gouvernementales. Et oui, il va y avoir peut-être des investissements à faire. On sait que, par exemple, en infrastructure, le PQI, présentement au Québec, on parle de pas loin de 170 milliards d'investissements au cours des 10 prochaines années. Ça va peser lourd, en fait, sur les dépenses du gouvernement. Et c'est des budgets qui sont amenés à augmenter.
Surtout que Nicolas, le vérificateur général nous a dit que ce PQI-là était sous-estimé de 75 milliards.
Exact. Donc, on peut s'attendre à ce que ça augmente au fil du temps. Si en plus on ajoute des projets d'infrastructures supplémentaires, on a souvent parlé du fameux tramway de Québec. On a aussi le fameux troisième lien qu'on ne sait pas exactement c'est quoi le coût réel. C'est quand même tous des projets qui sont ajoutés à tous les autres projets de réfection, de rénovation des infrastructures déjà en cours. Sans oublier les investissements supplémentaires en santé. On rappelle que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où est-ce que à Montréal, où est-ce qu'il y avait littéralement des écureuils qui se promenaient dans les murs de l'hôpital, on a eu de la difficulté à trouver le budget nécessaire pour le stationnement. Donc, j'ai hâte de voir qu'on va trouver le budget pour améliorer les infrastructures à l'intérieur des bâtiments. Tout ça étant dit, on a des coûts assez importants qui s'en viennent au PQI, mais il n'y a pas juste au niveau des dépenses d'infrastructures du gouvernement. Il faut aussi rappeler que Hydro-Québec, ça c'est on n'en parle pas assez, mais on peut s'attendre au cours des prochaines années à avoir un choc tarifaire lié à des investissements supplémentaires. On parle d'un projet de 184 milliards d'investissements sur 10 ans pour augmenter la puissance énergétique du Québec. Ça va se refléter à quelque part. Donc, est-ce que la facture va continuer à augmenter à un rythme de 3 % ou ça va augmenter de plus? Même chose pour les entreprises. Ça, inévitablement, ça va coûter de plus en plus cher et on n'a pas encore de contre-proposition, que ce soit de la part du Parti québécois ou que ce soit même de la CAQ qui amènerait un réajustement par rapport à ses ambitions. Malheureusement, c'est ça. Pour revenir au fait, c'est bien beau de dire qu'on coupe un peu dans la fonction publique, mais quand on regarde l'ensemble des autres dépenses qui explosent, effectivement un ménage de surface.
Oui, puis le contribuable, lui, il va avoir tout ça dans la face. Là, on nous dit que pour le 3% cette année, là, au mois d'avril, ça va être 3% Hydro-Québec. Mais après ça, il y a des élections. Mais après les élections, là, le bar va ouvrir pas à peu près parce qu'on n'a aucune idée vers quoi on s'en va. Ça peut être du 4, 4,5, 5, 6 au niveau résidentiel.
Oui, ça c'est effectivement, mais ça on projette 3% par année pour les 3 prochaines années, mais ça se peut effectivement que le changement de gouvernement fasse en sorte que le mandat de la Régie de l'énergie soit modifié, que les ambitions d'Hydro-Québec soient révisées, puis qu'on dise non, il faut aller effectivement plus loin dans l'électrification, parce que pour l'instant, si on s'attend qu'au Parti québécois, on n'a pas encore vu de changement de cap par rapport à ça. On se rappelle, par exemple, des objectifs par rapport à l'électrification des transports ou des voitures électriques du Parti québécois. Ils étaient plus ambitieux que la CAQ. Alors qu'on sait très bien, même Hydro-Québec l'a reconnu, que l'ajout important de tous ces nouveaux véhicules électriques sur le réseau routier au Québec va ajouter un poids considérable sur les épaules, en fait, d'Hydro-Québec. Et donc, il va pouvoir quand même faire des choix à ce niveau-là. Est-ce qu'on a les capacités? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions en termes d'électrification? La réponse est assez évidente. Malheureusement, c'est non. Ça veut pas dire que dans les prochaines années, il faut pas non plus continuer à développer et augmenter la puissance puis la quantité de blocs d'énergie à notre disposition pour continuer à favoriser notre croissance économique. Mais d'un autre côté, il y a d'autres objectifs là, qui pourraient être complètement révisés. L'avantage, c'est que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec n'ont pas le choix de tranquillement réviser justement leurs objectifs par rapport aux voitures électriques parce qu'ils doivent s'ajuster au marché nord-américain et au marché européen où est-ce que les objectifs sont complètement révisés de leur côté. Donc peut-être avec un peu de chance que ça va aider les choses, mais pour l'instant, c'est ça, on peut s'attendre à des chocs tarifaires. Si on continue dans cette direction-là, les chocs tarifaires sont inévitables.
Ouais. Pendant que tout le monde magasinait au mois de décembre, il y a eu une étude qui a été publiée par l'Institut Fraser sur la rémunération des fonctionnaires au Québec, notamment, travailleurs du secteur public. Et c'est quand même, tu vois, là, les travailleurs reçoivent de la fonction publique au Québec, secteur public, reçoivent des salaires plus élevés et des avantages sociaux plus généreux que les travailleurs comparables du secteur privé.
Oui, c'est pas nouveau, faut le dire, mais c'est un rappel assez important là, qui revient constamment. On apprenait justement là, dans ce rapport-là que en fait les travailleurs du secteur public québécois gagnent en moyenne à peu près 2,1% de plus que les travailleurs comparables du secteur privé. Donc déjà la rémunération est plus élevée, mais faut dire que bon, il y en a un qui paye un peu pour l'autre d'une certaine manière. Mais il faut aussi aller voir dans justement au niveau des avantages sociaux.
Oui, c'est là que ça joue, là. Oui, exactement.
C'est ça, comme par exemple au niveau des retraites enregistrées, 96% presque 97% des travailleurs du secteur public au Québec ont accès à un régime de retraite enregistré. Quand on va voir dans le secteur public, c'est à peu près 24% des employés dans ça. Donc, c'est pas du tout au même niveau. Puis là, certains vont dire, ben c'est au privé de s'ajuster. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est le privé qui paye pour l'autre. Oui, c'est vrai que les travailleurs du secteur public vont eux-mêmes cotiser en bonne partie à leur régime de retraite. Mais quand on parle, par exemple, des compensations salariales, ben je veux dire, à la fin de la journée, les contribuables du secteur privé payent pour le public en très grande partie.
Mais la pension de l'employeur, là, je veux dire, c'est le gouvernement, c'est nous autres, ça.
Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, au moins 50% du régime de retraite des travailleurs
du secteur privé. Ça revient du privé, ben oui.
Exactement. Et sinon, quand on regarde le reste, ben on sait qu'à peu près 96% des employés du secteur public ils reçoivent un régime de prestation défini. Dans le privé, on est à 56%. Là. Donc,
ça veut dire que peu importe ce qui arrive, là, tu vas avoir ta cotisation, ta prestation va être déterminée. Là. C'est-à-dire que tu n'as aucun problème. On a dit que tu allais avoir 60 000 piastres à ta retraite, ben, tu vas avoir 60 000, peu importe si l'économie se met à mal aller puis qu'il y a des déficits dans les fonds de pension, ben, il n'y a pas de problème. Ta retraite est assurée. Ils appellent ça des régimes Cadillac, hein?
Exactement. Puis on va se dire franchement, on approche fort possiblement d'une crise des fonds de pension au Québec et même dans le Canada par rapport à une population qui est vieillissante et avec des départs à la retraite massifs auxquels il faut s'attendre dans le secteur public, bien, qui sont déjà en cours d'ailleurs, mais qui vont avoir lieu au courant de la prochaine décennie. Puis justement, parlant de départ à la retraite, bien, en plus, les employés du secteur public partent généralement à la retraite plus rapidement que dans le secteur privé.
En fait, c'est quasiment 3 ans plus tôt.
Oui, c'est exact. C'est à peu près 3 ans plus tôt. Donc, je veux dire, non seulement le secteur privé travaille plus longtemps, mais il a moins d'avantages. Il paye en bonne partie pour l'autre et il part à la retraite plus tard. Donc, il y a comme une forme d'injustice à ce niveau-là. Et finalement, quand on parle d'absence et de congé, ben encore une fois, les travailleurs du secteur public vont généralement passer entre 16 et 17 jours de travail là, donc à l'extérieur des bureaux, donc pour toutes les raisons du monde, raisons personnelles.
Par année,
exact. Donc, c'est pas loin de... C'est à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines par année, au-delà même des congés, des vacances. Là, donc, il faut quand même le mentionner.
Des raisons personnelles.
Exact. Dans le secteur privé, on parle d'environ 11 jours par année. Donc, il y a vraiment, on peut constater une disparité de plus en plus importante entre le secteur privé québécois et le secteur public. Et il faut rappeler une chose, une bonne partie des embauches qu'on a eues dans les dernières années au Québec, c'est fait dans le secteur public. La fonction publique générale ainsi que le secteur parapublic a augmenté drastiquement au cours des dernières années, bien au-delà du rythme de croissance de la population. Puis finalement, ce sont en très grande partie les contribuables du secteur privé qui payent pour tout ça et qui ont effectivement de moins en moins, là, où est-ce que l'écart s'agrandit entre les deux.
Ouais, tu regardes, mettons, au Passeport Canada, là. On va parler du fédéral. Passeport Canada qui retourne des chèques ces temps-ci parce qu'ils n'ont pas été capables de livrer passeport à temps, mais ils ont embauché, ils ont augmenté les effectifs, ils ne sont pas capables de livrer. Puis en plus, ils dédommagent les gens qui ont payé pour leur passeport. C'est assez incroyable, ça aussi.
Non, effectivement. Là, on parle de pas moins de 42 millions de dollars qui ont été versés en chèques de la part de Passeport Canada à tous les gens qui ont fait des demandes de passeport et qui l'ont reçu en retard. Dans le fond, en 2023, le gouvernement fédéral a fait des ajustements en disant, ben écoutez, si vous recevez votre passeport en retard, après 10 jours, vous recevez une compensation partielle pour les frais de renouvellement. Si c'est au-delà de 10 jours, c'est un montant différent. Donc, c'est assez bizarre. On parle de chèques qui peuvent varier entre 14 et 117 selon les circonstances et selon le type de passeport. Mais à la fin de la journée, bon, de un, ce sont les contribuables qui payent pour ces compensations-là, payent pour les remboursements. Mais en plus, il faut dire que tout nouveau programme de remboursement, quel qu'il soit, nécessite une main-d'œuvre supplémentaire. tout ça en parallèle avec le fait qu'on a augmenté, voire doublé les effectifs au cours des 5 dernières années chez Passeport Canada pour avoir quand même plus de retard. Là, on verse des chèques. Et en plus, comme c'était pas assez, les gens reçoivent des chèques. Ils savent pas pourquoi. Parce que l'Agence du revenu du Canada ne partage pas ces informations avec les autres ministères. Donc, imaginez, vous recevez un chèque à la maison. Il y a bien du monde que c'est ça la situation. Ils reçoivent un chèque puis ils savent pas pourquoi. Parce que, en plus, ces chèques-là arrivent quasiment un an plus tard dans certains cas. Fait que là, ils disent, ben, comment ça, je reçois un chèque de 14 $ de la part du gouvernement? Ça fait aucun sens. Leur réflexe, appeler à l'Agence du revenu du Canada, où est-ce qu'ils vont alourdir, en fait, le temps d'attente qui est déjà anormalement trop long à l'Agence du revenu. Donc, ça fait un effet boule de neige. Tout ça à cause de quoi? D'une incompétence bureaucratique qui est perpétuée chez Passeport Canada. Parce que si on double les effectifs et qu'on est autant de retard, c'est parce qu'il y a un problème structurel interne assez important et qui n'a toujours pas été révisé.
Voilà. Donc, et ensuite, là, je regardais pour terminer, là, taux de perte d'emploi annuel 3,1% dans le secteur privé contre 0,4% dans le secteur public. Il y a ça aussi, là, dans l'équation des données qu'on a données, là. Voilà. Hey, ça va être une grosse 2026, Nicolas Gagnon. Merci beaucoup de vos lumières de la Fédération canadienne des contribuables. À la prochaine.
Ça fait plaisir. À la prochaine, puis on souhaite une bonne année.
Oui, bonne année 2026, voilà. Malgré tout, on va s'en sortir. On est fait fort.
Ben oui, on va s'en sortir, Pierre.
Ben incroyable, oui. Incroyable. Fait que tu reçois un chèque, tu sais pas. Ça vient de Passeport Canada. Tu avais commandé un passeport, il est arrivé une semaine en retard. Tu as un chèque de 15$, mais tu le sais pas d'où ça vient. Tu penses que ça vient des finances? Yeah.
Moi, Pierre, dans la vie, là, quand je reçois des factures, j'essaie de savoir d'où elle vient. Mais quand je reçois des chèques, je le prends plus
facilement. Ouais, c'est ça. Hein?
Voilà.
Comme les recours collectifs, ça. Voilà. Et après la pause, on jase avec Jean-François Dumas d'Influence Communication. Toute l'histoire de. Est-ce qu'on parle trop de Donald Trump au Québec? Il y a des données là-dessus, là.
C'est vrai qu'on. Je pense qu'on en parle peut-être bien même plus que de Mark Carney.
Oui, des médias, là. Des médias qui parlent beaucoup de Trump parce que ça clique. C'est payant. Oui. Je pense que Trump est très payant, mais c'est parce que là, on est en train de... Il y a du monde très apeuré, là. Il pense que Trump, là, c'est le démon incarné.
Beaucoup de monde.
Tu regardes aux États-Unis, Trump, il en parle pas tellement de Trump, là. Les Américains, ils continuent à faire leur vie. Ils ont de l'argent dans leur poche, tout va bien. Nous autres, ici, depuis 2 ans, l'économie est complètement à terre.
À cause de Trump.
Ben, c'est ce qu'ils nous disent. Hein? C'est pas Carney, là. C'est pas Justin Trudeau, là. C'est non, pas
c'est peut-être la faute des
les
autres.
Dirigeants, là. Non, c'est Trump. Tout arrive à cause de Trump. On jase de ça au retour.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Dans le mid. Radio-X.